autour de la planète, bienvenue à Tam Tam Canada qui est produit en direct de Montréal. Aujourd'hui, vendredi, c'est pas un vendredi 13, non, quelle chance qu'on a, c'est simplement un vendredi 8. On a failli passer proche, hein? On n'a pas failli, on a passé proche. Alors autour de la table ici, aujourd'hui, on a deux coéquipiers. On est trois en tout, mais seulement deux coéquipiers ici. Je vous explique, maintenant avec l'image, c'est plus clair. Mathieu Leiser, bonjour.
Bonjour Stéphane.
Marie Jobin, bonjour.
Oui, bonjour Stéphane. Une chance que Mathieu est là, parce qu'il fait descendre la moyenne d'âge.
C'est vrai. Véritable chute. Et puis une chance que Raymond n'est pas là, parce qu'il aurait fait augmenter un peu légèrement la moyenne
mais
d'âge.
Mais là, on ne donne pas de chiffres.
Non, c'est parce que c'est contre la loi. Il y a une loi qui concerne les renseignements privés. Nous, il faut observer ça. C'est un peu comme si on était des banquiers. Alors, vous me donnez des informations, on n'a pas le droit de livrer ça à l'antenne. C'est le secret absolu. Ce qui est secret, évidemment, vous le savez, c'est le sujet de l'émission. Mm-hmm. Secret pour vous. Est-ce que c'est vraiment un secret pour vous, Mathieu?
Oui.
Petite voix d'adolescent. Oui. Pourquoi la voix casse?
J'ai eu quelques indices, mais okay. J'ai fait exprès de ne pas creuser
okay.
Pour rester dans l'inconnu.
Dans l'esprit du jeu. Alors, à cette émission, bien sûr, vous devez devenir le sujet de l'émission. Mm-hmm. Je vous aide toujours un peu comme un... je vous offre un...
Dans votre bonté.
Oui. Générosité, pas bonté. Trompez-vous, vous vous trompez de personnage ici. Générosité. Voici la vidéo numéro 5, image. Tout le monde à la maison, au bureau, dans l'avion, dans les 737 en particulier. Vous pouvez jouer avec nous. L'avion le plus populaire dans le monde, hein, de transport passager, 737. Ça dépend évidemment dans quelle version vous voyagez. Bon. Voici première image. Ça, c'est ouais.
On est habitué de le voir dans les médias,
ouais.
Donc c'est pas nouveau.
Qu'est-ce que c'est que ça, ça?
Walgreens.
C'est quoi ça, Walgreens?
Ah, on parle de médicaments, et
oui.
Ça, c'était Bernie Sanders, il était venu au Canada pour montrer que les médicaments coûtent moins cher au Canada qu'aux États-Unis.
Mais c'est pas exactement le sujet de l'émission. Quel est le sujet?
Et on va parler des médicaments aux États-Unis, apparemment.
Ouais. Lower drug prices.
Ah, le prix des médicaments aux États-Unis?
Ouais, mais dans le contexte canadien? Prix et pénurie, les États-Unis commencent à importer nos médicaments canadiens. Mais j'aurais dû mettre un point d'interrogation à prix et pénurie, après pénurie, parce qu'on se pose la question. Et puis, ça fait quelques mois qu'on se pose la question. Il y a eu d'autres annonces récemment qui ont été faites aux États-Unis concernant le désir des Américains d'importer nos médicaments. Non seulement les démocrates en parlent, mais l'administration américaine de Donald Trump est passée à l'action, a fait certaines demandes. Pour moi, ce n'est pas clair ce qui se passe. Je n'ai aucune idée s'il va y avoir pénurie. Additionnelle, je vous dirais, parce qu'il y a déjà pénurie de certains médicaments. Moi, comme je n'ai pas besoin de médicaments pour le moment, je ne m'inquiète pas trop, mais on a tous des parents et des amis qui consomment des médicaments, certains qui sont parfois rares. On se demande quel serait l'impact d'une population, 300 millions de personnes qui viennent chercher les médicaments, de 37 millions de Canadiens. Vous voyez l'image, là? Il y a un problème de
ratio, là.
Oui, il y a quelque chose qui
se passe. Alors là, je pense que j'ai en tête qui est M. Bolduc.
Ben, dites-le-moi qui est M. Bolduc.
Je pense qu'il est représentant pas de l'industrie pharmaceutique, mais des gens, des pharmaciens.
Ah, c'est une bonne idée.
Je pense que oui. Alors, il dit oui, il hoche oui de la tête, on le voit,
d'accord.
Pas encore pour nos auditeurs, mais je pense que c'est un peu ça, là.
Vous êtes comme dans une machine à avancer dans le temps. Vous avez précédé les choses d'à peu près 2-3 minutes. Le temps du premier jeu de la grosse boule.
Ah oui, c'est moi qui devais...
Ben oui, mais je vous aide, là, parce que vous êtes tellement avancé dans le temps, vous êtes perdu. Là. Voici, premier jeu de la grosse boule, on perd combien de points à ce premier jeu?
20.
Wow, il y a combien de jeux à l'émission?
3.
Et il y a un total de combien de boules à perdre?
100.
Quelle belle classe!
Wow.
Ils ont bien appris leur leçon. Ça fait plusieurs mois qu'ils souffrent comme ça. Je rappelle, c'est le règlement Paloma-Martinez d'être négatif au départ. D'accord? 20 points à perdre. Voici. On affiche la question pour tout le monde à l'antenne. Au sujet des prix des médicaments, laquelle de ces affirmations est la plus juste? Il peut y en avoir une qui est juste, mais laquelle est la plus juste? Est-ce que c'est A, les entreprises fixent les prix de la plupart des médicaments au Canada? Est-ce que c'est B, les entreprises et le gouvernement décident ensemble du prix des médicaments? Est-ce que c'est C, les forces du marché dictent les prix des médicaments au Canada? Ou encore, est-ce que c'est D, l'État canadien réglemente le prix des médicaments? Quelle est l'affirmation qui est la plus juste?
Moi, j'aurais dit la B.
Vous auriez dit la B.
C'est un consensus entre les deux?
Ça m'a l'air, quelque chose qui aurait beaucoup de bon sens, oui.
C'est intéressant, mais le truc, c'est que dépendant si on a une assurance médicaments, les prix peuvent différer parce qu'on peut se les procurer. auprès du gouvernement ou en passant par le pouvoir d'achat du gouvernement pour des prix moindres. Alors, et je sais que ce n'est pas D. Alors, j'hésite.
Ah bon? Alors, qu'est-ce que vous dites? A, B ou C?
Je dirais A.
Vous diriez A, d'accord. Alors, si vous avez répondu B, on va vous l'accorder. Je dis ça pour le moment, avant que notre invité s'exprime sur la question. Officiellement, ce serait plus juste de dire D, plus juste, mais pas dire que c'est tout à fait la même chose. C'est bon, ça. L'État canadien réglemente le prix des médicaments, c'est-à-dire qu'il est là pour, s'il y a un doute, il y a une vérification des prix et il a un pouvoir de décider au final quel sera le prix des médicaments.
Mais il travaille avec les entreprises de la base.
Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. J'ai dit l'impression à pouvoir avoir tout lu sur la question, c'est-à-dire au moins deux, trois, vous savez, les encyclopédies médicales. Moi, je recule devant rien. Alors, on va aller vers notre... Il n'y a que vous qui avez perdu ces boules aujourd'hui. Là.
Oui, mais c'est bizarre parce que je suis la seule qui prend des médicaments.
Ouais.
Et je sais que si moi, j'y vais avec ma couverture d'assurance, le pharmacien va me charger plus cher que si je n'étais pas sous cette couverture et que j'avais plus... que 65 ans.
Alors, on fait intervenir Bertrand Bolduc, président de l'Ordre des pharmaciens du Québec. Vous aviez vu juste, c'est bien responsable des pharmaciens au Québec qui est avec nous. Bonjour, M. Bolduc.
Bonjour.
Alors, évidemment, moi, je m'y perds et je me suis amusé à ce que mes collègues s'y perdent également. Mais qui réglemente le prix des médicaments au Canada? Commençons par ça avant de parler du prix des médicaments aux États-Unis. Voyons comment ça se passe chez nous.
Alors, la réponse à votre question, c'était D et B. Alors, D, pourquoi? Parce que lorsque les médicaments sont brevetés, donc il n'y a qu'un fournisseur seulement, souvent une compagnie innovatrice, le Conseil d'examen des prix des médicaments brevetés va fixer un maximum du prix. Et ça, c'est en comparaison à un groupe d'environ 7 pays actuellement, donc avec des pays européens, les États-Unis, la Suisse, etc. On va fixer un prix maximum que les compagnies ne peuvent pas
dépasser.
Pour les médicaments brevetés.
Là, évidemment, il y a beaucoup de débats au Canada. Ça fait un bout de temps que ça dure. On dit on devrait avoir un mécanisme encore plus précis, qui a un peu plus de fermeté pour pouvoir faire fléchir les prix, des fois qui semblent un petit peu artificiellement gonflés par les entreprises pharmaceutiques, dont plusieurs sont canadiennes. Où en est présentement la discussion brièvement sur cette question?
Il y a aussi les gouvernements provinciaux qui négocient les prix des médicaments et brevetés, et également les médicaments génériques. Donc, au Canada, donc, il y a deux paliers de négociation, le fédéral et le provincial. Donc, la RAMQ ici au Québec, mais les autres formulaires provinciaux le font également, négocient les prix pour les avoir les plus bas possibles. Donc, on peut assurément dire qu'au Canada, on paie beaucoup moins cher nos médicaments qu'aux États-Unis en général. C'est pour ça que, du côté sud de la frontière, on jette un coup d'œil chez nous.
Mais si on se compare, juste une dernière question.
On se console.
Oui, je ne sais pas si on se console. J'ai vu quelque part, je n'ai pas pu confirmer l'affaire, mais qu'on serait troisième au niveau du haut prix des médicaments comparé à un certain groupe de nations. Je ne sais pas, vous avez les détails là-dessus?
Oui, effectivement, le Conseil d'examen des prix des médicaments brevetés, comme je vous disais, regarde 7 différents pays. Mais il y a un projet de loi au niveau fédéral pour revoir le panier de pays auxquels on va se comparer et ça pourra faire descendre la médiane des prix des médicaments brevetés à l'avenir. Alors, on va éliminer les États-Unis et la Suisse qui sont plus chers. On va remplacer par d'autres pays où c'est moins cher, comme l'Espagne.
Comme l'Australie.
Et on va avoir des prix probablement moins chers dans quelques années pour les médicaments brevetés. Mais il faut faire attention, évidemment, parce que si on décourage trop les compagnies de venir commercialiser chez nous, on n'aura peut-être pas accès à tout. Donc, il faut trouver un bon équilibre entre les deux, réduire les prix, mais en même temps, maintenir l'innovation et l'accès aux Canadiens aux nouveaux produits pharmaceutiques.
Je pense qu'il convient ici de faire intervenir la plus grande consommatrice de médicaments à l'émission.
J'ai pas le choix.
Ouais.
Je voulais vous demander, le modèle australien, on parle beaucoup du modèle australien, je crois, qui est très intéressant. Ou est-ce que c'est le modèle néo-zélandais, où là, les prix des médicaments génériques ou les autres brevetés sont beaucoup moins chers qu'au Canada?
Effectivement, en Nouvelle-Zélande, les médicaments sont moins chers. Ça vient avec certains problèmes, évidemment, parce que si vous êtes un producteur de médicaments, soit américain ou asiatique, vous allez vendre vos produits d'abord où on vous en donne le plus pour. Et souvent, la Nouvelle-Zélande a des problèmes de pénurie de médicaments avant les autres parce que les prix sont vraiment très bas. Alors ici au Canada, quand même, on se débrouille bien pour les médicaments génériques. Les prix sont assez raisonnables dans l'ensemble, mais il faut toujours faire attention parce que l'équilibre entre un prix raisonnable et un prix trop faible qui cause des pénuries, un prix trop élevé qui n'est pas juste, et c'est pas toujours facile à trouver.
Mais donc, M. Bolduc, comment expliquer...
Au Canada, on s'est bien débrouillé, mieux que la Nouvelle-Zélande au niveau des pénuries, peut-être un peu plus cher que chez eux, mais en général, puisqu'on est un petit marché, ben, il faut parfois s'assurer d'un approvisionnement stable aussi, et ça, c'est pas facile non plus de ce temps-ci.
Mais cette semaine, on voyait qu'il y avait des pénuries de tamoxifène, qui est un médicament très important pour beaucoup de gens au Canada. Comment expliquer ça?
Ben, la tamoxifène, c'est un bel exemple d'un produit qui est essentiel, surtout pour les femmes qui ont souffert d'un cancer du sein pour éviter les récidives. Alors, vous pouvez imaginer comment c'est essentiel. Et ben, parce que c'est un médicament dont on a réduit le prix et qui n'est pas simple à faire. Hein. C'est un médicament de... C'est pas de la chimiothérapie classique, mais c'est un médicament qui est quand même un peu spécial au niveau sécurité. Alors, il y a beaucoup moins de producteurs et il faut s'assurer de l'approvisionnement à un prix raisonnable. Et là, ben, s'il y a eu un problème de qualité à un endroit ou si une des sociétés a cessé la commercialisation, ça dérange l'équilibre. Et là, on se retrouve en pénurie. Heureusement, pour ce produit-là, présentement, les pharmaciens peuvent préparer eux-mêmes des capsules pour les patientes en attendant que le produit commercial revienne sur le marché. Donc, on est en train d'éviter la catastrophe, mais il faut garder l'œil ouvert et être très attentif au stock de ce médicament-là qui est très précieux pour ces patientes-là.
Justement, en ce moment, on montre des images d'un reportage de CBC qui parle de cette pénurie de médicaments contre le cancer. Il n'y a pas qu'un seul médicament, il y en aurait deux autres également sur la liste en ce moment?
Des médicaments en pénurie, on en a constamment. Vous seriez surpris, je reçois des alertes à tous les jours. Une liste de médicaments en pénurie à tous les jours. Bon, parfois, c'est seulement une marque et on peut se débrouiller avec les autres fabricants. Mais on a eu récemment en chimiothérapie, comme vous le dites, certaines pénuries. Et ça a nécessité que nos pharmaciens, surtout en milieu hospitalier, priorisent les patients, s'échangent du stock entre eux pour s'assurer que les gens ne retardent pas le traitement. C'est souvent très difficile et ça nous occupe un peu trop. On aimerait passer plus de temps à soigner les gens plutôt qu'à s'occuper du stock qui manque. Mais c'est un grand souci et l'équilibre est toujours très fragile pour certains produits parce qu'on n'a pas beaucoup de fabricants. Donc, il faut être extrêmement vigilant et les stocks sont précieux lorsqu'on les a.
Bon, voilà. On a mis ensemble la table pour ce qui est de la réalité canadienne au niveau de la disponibilité des médicaments et des prix. C'était essentiel au départ d'une conversation sur l'injection de dollars américains dans notre économie pour aller nous suturer les médicaments et les apporter là-bas. Venons-en à ces manœuvres. Pas, manœuvres, c'est un peu négatif comme terme, mais à ces gestes que pose présentement l'administration américaine, aux promesses faites par le démocrate Bernie Sanders. Tout ça, ça s'en va dans une direction. Hein. Il y a nettement un courant aux États-Unis pour dire on a besoin de médicaments moins chers et une piste, c'est au Canada qu'on va la trouver. Comment ça se passe actuellement?
Bien, c'est sûr qu'au Canada, parce qu'on a deux niveaux de gouvernement qui négocient les prix pour tout le monde, on a des prix plus bas pour tout le monde. Alors qu'aux États-Unis, si vous êtes assuré par une grande compagnie d'assurance, vous avez quelqu'un qui négocie vos prix. Si vous n'avez pas d'assurance, ça ne va pas très bien. Vous n'avez pas de levier de négociation, vous allez payer le gros prix. Et c'est ce qui cause souci. M. Sanders, évidemment, utilise cette situation pour démontrer que il devrait avoir une couverture sociale beaucoup plus grande pour les médicaments aux États-Unis, comme nous, on l'a au Canada. Alors, les gestes étaient assez éclatants, hein? Remplir un autobus, venir chercher de l'insuline de l'autre côté de la frontière. Évidemment, les gens ont été frappés par les différences de prix. C'est pas facile. Et il faut s'assurer que nous, on garde les stocks qu'on a ici pour nos patients d'ici, parce que souvent, même dans le cas de l'insuline, c'est fabriqué aux États-Unis. Alors, c'est un peu bizarre qu'on exporte des États-Unis vers le Canada et qu'on réimporte aux États-Unis par la suite parce que c'est moins cher. Les Américains doivent eux-mêmes mettre en place les mesures pour négocier les prix de leurs médicaments pour leur population. C'est ce que M. Sanders a mis en évidence lors de sa petite visite en Ontario à Windsor récemment. Et c'est ce que M. Trump a dit par la suite. Il dit, ben oui, on devrait faire ça. Mais alors nous, on est un peu utilisé comme levier de, de négociation ou de levier de politique pour la bataille qui est en cours présentement aux États-Unis pour les prochaines élections américaines.
Vous dites qu'on a des pénuries au Canada. Vous dites tous les jours on a une pénurie de médicaments. Est-ce que si on commence à vendre nos médicaments aux États-Unis, on sera toujours dans le même problème? Comment on va pouvoir pallier à ces pénuries s'ils nous en prennent encore plus?
Ben, vous avez tout à fait raison. Il y a même un chercheur américain qui a publié là-dessus, qui a démontré que si les Américains viennent acheter des médicaments au Canada, on ne tiendra pas 2-3 mois. Alors, c'est une évidence. On est beaucoup moins, on est 10 fois moins. Il faut éviter ça à tout prix. Alors, comment on fait ça? Bien, évidemment, les sociétés américaines qui commercialisent au Canada vont s'assurer que leur stock reste au Canada parce qu'ils n'ont pas avantage à réexporter leurs produits aux États-Unis à un coût moindre, puisqu'ils vendent plus cher là-bas. Ça, c'est la première garantie qu'on a. Ils signent des contrats avec les grossistes canadiens pour que ceux-ci ne vendent qu'au Canada. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les pharmacies au Canada, bien, ils doivent servir les patients canadiens. Ce ne sont pas des grossistes ni des fabricants. Et un pharmacien au Québec ou en Ontario ou ailleurs ne peut servir que des patients canadiens avec des prescriptions de médecins canadiens. Alors, c'est une deuxième ligne de défense que nous avons en place pour s'assurer que les produits ne retournent pas aux États-Unis. Évidemment, si un touriste américain qui est de passage au Canada et qui a un problème de médicaments, on va le dépanner, c'est sûr, mais on n'en fournira pas nécessairement pour 1 an ou 2 ans juste pour lui faire économiser des sous. Parce que les pharmacies ont une responsabilité sur le suivi des médicaments. C'est pas juste servir le médicament, mais s'assurer qu'il est bien utilisé et de façon sécuritaire. Si le patient retourne chez lui aux États-Unis, on a plus de contrôle et c'est pas notre métier. Notre métier, c'est de servir la population d'ici et s'assurer que nos stocks demeurent ici à travers les fabricants, les grossistes, les pharmaciens. Mais voilà, évidemment, il faut monitorer ça pour s'assurer qu'il n'y a personne qui joue avec le système.
Et est-ce que vous avez les moyens de monitorer ça? Est-ce que vous avez les moyens de savoir cette personne est déjà venue il y a 2 mois et elle reviendra dans 2 mois? Est-ce que vous avez les moyens techniques de le faire?
Bien sûr. Comme vous savez, toutes les pharmacies sont informatisées. Ils suivent leurs patients. Souvent, ils vont même préprogrammer les renouvellements. Si on a quelqu'un qui vient avec une adresse américaine, ben déjà... ça nous fait sourciller, on va s'assurer, bon, vous êtes en visite, vous avez un problème, vous avez oublié quelque chose, on va poser beaucoup de questions, évidemment. Et là, s'ils nous demandent, j'en aurais besoin pour 6 mois, un instant, vous retournez quand chez vous, et on va exercer ça. D'autre part, les grossistes sont en mesure de jeter un coup d'œil sur les commandes et voir les variations dans le temps de ces commandes-là pour s'assurer que, oups, si un pharmacien, tout à coup, se met à commander... 10 fois plus d'insuline qu'habituellement, ben là, il y a un souci. Et on va aller voir chez eux. Ils vont appeler chez nous. On va envoyer un inspecteur et on va s'assurer que les patients qui sont traités, c'est bien des patients canadiens.
Monsieur Bolduc, comment expliquer qu'une personne qui va dans une bannière particulière, une pharmacie particulière, va payer plus cher ou moins cher un générique ou un médicament d'origine? Parce que ça arrive.
Oui, bien... pour le prix des médicaments, pour les gens qui sont assurés. Au Québec, on a un système hybride privé-public et c'est la même chose dans les autres provinces au Canada. Les pharmaciens négocient des honoraires avec le gouvernement, donc le système public, qui sont fixes par médicament, alors que pour les honoraires, pour les patients qui sont couverts par les assurances privées, les honoraires sont variables. Alors, c'est vrai que pour plusieurs produits, le prix va être un peu plus cher pour les assurés du privé, mais pour certains autres, ils sont moins chers. Alors, un produit très peu coûteux, par exemple, sera moins cher pour le privé qu'au public, mais pour les produits plus dispendieux, il va être un peu plus cher. Donc, les honoraires ne sont pas fixés de la même façon et n'incluent pas nécessairement non plus les mêmes services. Alors, au public, même qui peuvent être facturés séparément, alors qu'au privé, je vous dirais que présentement, le modèle est un peu plus mutualisé, ce qui n'est pas idéal. Et bon, ce n'est pas l'Ordre qui négocie les honoraires, évidemment, avec les payeurs, mais l'Association des pharmaciens propriétaires ici au Québec et dans le reste du Canada, c'est la même chose, sont en train de revoir ce mode de rémunération pour qu'il soit beaucoup mieux modulé tant au public qu'au privé, non seulement en fonction du prix du médicament, ce qui n'a pas vraiment de sens, mais plutôt au niveau de service qui est nécessaire, au niveau de suivi. Alors, je vous donne un exemple. C'est sûr que ma fille de 22 ans qui prend un anovulant nécessite beaucoup moins de suivi que ma mère de 76 ans qui prend 8 ou 10 médicaments. Alors, le pharmacien devrait recevoir plus pour une patiente qui demande plus de soins et moins pour une personne qui demande moins de suivi. Et c'est vers ça qu'on se dirige pour justement arriver à des honoraires qui font beaucoup plus de sens. Quand vous allez chez le dentiste, vous payez plus cher si vous avez plus de caries et vous payez moins cher si vous n'en avez pas. C'est bien évident. Alors, ça devrait être comme ça pour les médicaments éventuellement.
Mais pourquoi il y a une différence de prix pour le même médicament dans différentes bannières?
C'est, le prix du médicament en lui-même est le même pour tout le monde. C'est les honoraires du pharmacien qui varient nécessairement. Mais les produits eux-mêmes, ils sont tous au même prix puisqu'ils sont négociés par le gouvernement. Et le gouvernement s'assure qu'il paie toujours le moins cher. Donc, on a les mêmes prix pour tout le monde.
C'est quoi un horaire de pharmacien, pas normal, mais moyen?
Un horaire?
Ben, oui. Ça varie de beaucoup. L'honoraire au public au Québec est d'environ 9-10 $ okay. Alors qu'au privé, il peut varier de 3 à 50, dépendamment de ce qui est nécessaire de faire. Si je vous sers un produit qui nécessite réfrigération, qui nécessite beaucoup plus de conseils, de démonstration, il faut que je passe du temps avec vous pour vous l'expliquer, pour le suivre. Il faut que je vous assure que dans quelques jours, tout est bien pris, vous n'ayez pas d'effet secondaire. Alors évidemment, ça sera un petit peu plus dispendieux qu'un produit pour lequel, je vous donne un exemple, de la vitamine D, par exemple, où j'ai à peu près rien à vous dire, à part que tout va bien se passer si vous le prenez tous les jours, tout l'hiver. Ouais. Alors, c'est sûr que ça varie grandement selon les conditions, et c'est un peu normal parce que ben, le risque de perte est plus grand pour un produit réfrigéré. Une pompe pour l'asthme va vous demander plus d'explications, etc. Ouais. Donc, c'est un peu variable en fonction de ça.
Mathieu, vous avez une dernière question.
Pour juste en revenir sur les États-Unis, si jamais ils décident de prendre des médicaments canadiens, est-ce qu'ils peuvent? Comment ça va se passer si jamais ils décident de vraiment aller de l'avant et négocier avec le Canada?
Bien, présentement, on ne les laisserait pas faire. C'est-à-dire que ces médicaments-là ne pourraient pas provenir d'une pharmacie et ne pourraient pas provenir des grossistes. Alors, il faudrait qu'eux, ils demandent à leur propre filiale, souvent... des filiales de compagnies américaines ou internationales de vendre aux États-Unis. Je ne vois pas trop comment ça va se faire. Je pense plutôt qu'on est, comme je disais à d'autres journalistes, on est dans une pièce de théâtre et nous, on est entre les deux parties et on sert de faire valoir d'un côté ou de l'autre selon les positions. Ce qu'on peut imaginer, d'ailleurs, Mme Pelosi, des démocrates, la présidente de la Chambre des représentants, a déjà proposé un projet de loi pour réduire le prix des médicaments là-bas. Fait que ce que vous allez probablement voir d'ici la campagne électorale américaine plus officielle dans les prochains mois, c'est des projets, des promesses de réduire le prix des médicaments pour les Américains. Je pense que ça va être un des thèmes de la campagne. Peut-être pas un thème majeur, mais un des thèmes.
Très bien. Donc, il n'y a pas de souci pour le moment. On n'est pas dans une pièce de Molière, le malin imaginaire, ça va. Merci beaucoup d'être venu à l'émission aujourd'hui. Moi, j'ai appris beaucoup de choses sur ce qui se passe ici chez nous au niveau des prix. Je trouve ça essentiel de le savoir maintenant. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Ça m'a fait grand plaisir.
Au revoir. Au revoir.
Alors, c'était Bertrand Bolduc, président de l'Ordre des pharmaciens du Québec. Évidemment, c'est quelqu'un qui sait s'exprimer. Oui. Hein, il n'est pas payé pour rien. Mais ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'il... C'est un peu un cliché, mais il correspond exactement à l'image rassurante qu'on se fait du pharmacien. Parce que...
Le ton est là.
Oui. Et puis, on sent qu'il vérifie. C'est posé, c'est systématique. Il y a une douceur dans le geste qui est posé également, d'accord?
Parce mais qu'on parle, pour en avoir fait l'expérience, je vous dirais, magasinez des fois vos bannières.
Oui.
Parce que vous pouvez avoir des nouvelles, mais il y a aussi le service qu'on reçoit qui est important.
Moi, je ne veux pas nommer de compagnie, là, mais je ne le ferai pas non plus. Parce que je pense qu'il y a aussi, faut faire attention. On parlait du code de déontologie à l'émission un peu plus tôt, n'est-ce pas? Alors, voilà, on l'applique aujourd'hui à l'émission. Écoutez, très sérieusement, on va jouer ensemble maintenant au deuxième tour de la grosse boule. Combien de boules à perdre?
30.
Oui. Et puis, la question n'est pas facile, je vous préviens tous. On affiche à l'écran. Attendez voir. Voici. Une fiole d'insuline de 30 $ au Canada se vend aux États-Unis à quel prix, selon vous? Est-ce que c'est A, à plus de 400 $? J'ai la voix qui casse un peu, là, comme Mathieu, à 400 $. Est-ce que c'est B, à plus de 350 $? Est-ce que c'est C, à plus de 200 $? Ou est-ce que c'est D, comme la vitamine D, à plus de 100 $?
Je tiens à dire que je fais rajeunir tout le monde. Hein. Regarde, sa voix redescend. Ouais.
Ça a eu un effet, vous.
Mais là, il y a des petits virus qui se promènent. Là. Oh, c'est que les voix sont affectées.
Oui. Alors, la bonne réponse.
Moi, j'aurais dit à plus de 200.
À plus de 200, c'est donc C pour Mathieu, d'accord?
Parce que quand même, 300, c'est énorme. 350.
Oui, c'est énorme.
Je vais rester raisonnable dans le 200. Ouais.
OK. 200. Ben, moi, je vais aller avec D, vu que la première réponse, je n'avais pas choisi D.
D'accord. Alors, vous avez tous les deux perdu vos boules.
T'es
vos
sérieux?
30 boules.
Non, mais vous êtes sérieux?
Oui. Tu peux me tutoyer à ce moment-ci.
Quoi? 350?
400 $.
À plus de 400 $. C'est 450 $, les amis.
Alors, on se demande pourquoi ils traversent la frontière et qu'ils veulent acheter leurs médicaments ici.
Ça n'a pas d'allure. Et souvent, c'est de l'insuline qui est fabriquée ici. Alors, essayez de comprendre ce qui se passe. Ils ont un sérieux problème de contrôle des prix, moi, je vous dirais.
Mais le plus ironique, c'était quand même quand ils nous expliquaient les entreprises américaines vendent des médicaments au Canada et ils les vendent plus cher chez eux qu'au Canada, ils les vendent.
Mais d'ailleurs, Trump avait fait une remarque là-dessus. Ils avaient dit, oh, les Américains n'ont qu'à aller au Canada. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est qu'ils mettaient dans le trouble qu'on dit ici les entreprises américaines.
Ah oui.
Parce qu'ils feraient moins d'argent. Parce que le marché est plus petit ici que là-bas. Donc, si tous les Américains venaient au Canada pour acheter les médicaments.
Oui. Ben, tu sais, il était question qu'il y ait un prix Nobel de la paix offert à Trump, mais je pense qu'on va lui offrir le prix Nobel de l'économie. Je pense que ça s'en vient bientôt. Je vais faire une recommandation à ce sujet. Écoutez, parce que c'est un sujet sérieux et parce qu'il y a plusieurs facettes à ça, évidemment, on a les reportages, les entrevues, tout ce qu'on a fait récemment sur la question des médicaments au Canada. Vous allez voir, c'est très détaillé. On va afficher notre vidéo qui s'appelle « Pour en savoir plus ». Alors, pour en savoir plus, vous allez retrouver plusieurs de vos reportages, Maryse, de vos entrevues, de vos articles. Alors, on va commencer. Regardez, vous allez vous reconnaître tout de suite. L'importation par les Américains de médicaments canadiens causera des pénuries. Je pense que c'est de vous, ça. Ou le prix des médicaments au Canada s'immisce dans la course à la présidence des États-Unis. C'est de vous, ça. Alors, ça, c'est pour... Dans l'immédiat, on parle de la crise. On va descendre un petit peu le long de cette page qui accompagne l'émission aujourd'hui. Pénurie de médicaments contre le cancer au Canada. Ottawa suit le dossier. On en a parlé au début de l'entrevue avec notre invité. Toujours aucune solution permanente à la pénurie nationale de médicaments pour le cancer. Troisième section, médicaments, un bon système de base passe par un système, un régime universel au Canada.
Une entrevue que j'avais faite avec M. Gagnon.
Justement, on clique et on va aller vers votre article. Vous savez, comme ça, on...
Qui est derrière, donc, il a rassemblé des gens, d'autres professeurs avec lui, pour justement demander au gouvernement de mettre sur pied un système national.
Vous reconnaissez cet homme?
Tout à fait.
Qui est-il?
M. Gagnon, Université d'Ottawa.
Oui, il est interviewé à plusieurs antennes. C'est un spécialiste de la gestion des médicaments. Il regarde ça d'un point de vue économique, je pense.
Oui, la première fois que je l'avais interviewé, c'était pour l'épipène, qui coûte vraiment cher et qui a augmenté. Et à un moment donné, au Canada, on a commencé à faire entrer des marques génériques plutôt que la marque épipène.
Ce que j'aime beaucoup dans vos articles, c'est que vous affichez d'autres articles à la fin de votre article sur le même thème, ce qui permet à l'internaute de voyager à travers le site web de Radio-Canada International. Je le recommande. Je trouve ça très bien. Voilà. On est prêt pour le troisième tour de la grosse boule?
Allons-y.
Combien de boules à perdre?
50.
Ouais. Oui. Vous en avez perdu...
Moi, j'ai
30.
Et toi,
50.
Moi, je fais ça. Oui, c'est ça. Il m'en reste 50. Ouais. Alors, tu es à 70, moi, 50.
Ouais. Bon, ça y est, on tutoie tout le monde maintenant à l'émission.
Désolé.
Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. OK. Voici la question. On l'affiche. Voilà, troisième tour. Quel est le prix moyen au Canada? Vous en avez marre, je vous en parlais beaucoup, là.
Oui, mais un médicament générique, ça dépend de quel médicament on parle.
Oui, mais là, on parle du prix moyen. Alors, on ne veut pas de détails, on veut le prix moyen de tous ces médicaments génériques. Il y a eu une enquête à ce sujet récemment. Est-ce que c'est A, 19,45 $? Ça, c'est sans l'honoraire du pharmacien, d'accord?
Ah, OK.
Je le précise. Il y a un astérisque ou deux, là, qu'il faut ajouter. Est-ce que c'est B, 26,13 $? Je suis très précis, moi, là.
Oui, je vois.
Est-ce que c'est 72,02 $ cents canadiens, ou est-ce que c'est des 105,18 $ le prix moyen au Canada d'un médicament générique?
Moi, je dirais 26,13 $. Réponse B.
26,13 $. Donc, bingo pour... Non.
Non?
Je ne sais pas, je ne sais pas. Continue.
Ben là, moi, je perds tous mes points depuis le début. Alors, est-ce que je devrais me rallier à Matthew ou est-ce que je devrais aller avec A?
Je ne sais pas, on va regarder.
Donnez-moi un indice.
Vous voulez un indice avant qu'on donne la réponse?
Non. je vais aller avec Matthew, mais probablement que c'est Matthew qui va gagner.
Alors, j'ai des mauvaises nouvelles.
C'est ça, j'aurais dû aller avec 19,45 $.
19,45 $, voilà.
J'ai failli dire merde.
Ben, je vais vous donner des explications. On va garder l'écran... les données
c'était
affichées.
C'était mon premier choix, mais j'ai voulu faire.
Mais c'est bien, ça montre que les prix canadiens restent beaucoup plus bas que les prix américains.
Hein. C'est encourageant. Donc, je vous donne l'explication ici. Selon l'Association canadienne du médicament générique, regardez bien les chiffres, là. Le prix moyen d'une ordonnance pour des médicaments génériques est passé de 26,13 $ en 2009 à 19,45 $ en 2018. En comparaison, le prix moyen pour des médicaments de marque, comme, je ne sais pas, Pfizer et compagnie, était de 72,02 $ en 2009 et 105,18 $ l'an dernier.
En soi, si on avait joué il y a 10 ans, j'aurais gagné.
belle façon de voir les choses.
Alors là, vous êtes à 20 points, et donc oui. Vous gagnez, moi je suis à zéro.
Il a
perdu.
Points.
Oui, parce qu'il y avait. Non, non, le dernier, il a perdu.
Ah oui.
Il était à 70, il a perdu 50, donc il est à 20.
Je survis.
J'ai tout essayé, Mathieu. Ça ne fonctionne pas. OK. On regarde. Ensemble, vous allez dire. Quel est, vous allez dire. Vous allez regarder dans ma tête, d'accord?
Ah, le petit sujet de la semaine.
Je réponds par oui ou par non. Vous devez me dire quelle était l'image de la semaine. Quelle était l'image de la semaine?
Ben là, ça nous prend des indices.
Non.
Société, transport.
Société.
Économie.
Société. Économie. Société et économie, oui.
Est-ce qu'on est au Canada?
On est au Canada.
On est au Canada. Société, économie. Est-ce que ça traite de d'immigration?
Non.
Non.
Pas pour le savoir, là. Non.
Est-ce que c'est au Québec?
C'est partout au Canada.
C'est partout au Canada.
Mmh. Est-ce que ça traite des résultats des élections?
Non.
Non. J'aurais dit le Wexit, mais...
Mais ça, c'est un facteur qui joue durant la soirée des élections. J'en dis pas plus.
Un facteur qui joue durant la soirée des élections.
Ouais. Il reste encore à peu près 9 minutes avant de perdre le satellite, donc on continue.
Est-ce qu'on va avoir un indice?
Un indice. Oh, je sais pas. Il est quelle heure?
11h45.
Le changement d'heure. Il a fait deux trucs là-dessus cette semaine.
Ouais.
Alors, il veut vanter ses articles.
Non, Marie, vous irez voir sur le site, ça a 8000 per clic.
Mais c'est un débat qui est partout. Hein.
Ouais.
Tout à fait.
Moi qui suis originaire d'Europe, on en parle beaucoup. L'Union européenne est en train de réfléchir à arrêter le changement d'heure complètement.
Ouais, ouais.
J'ai vu qu'au Canada, ils le font aussi. C'est vraiment un sujet qui fait le tour.
Ça a commencé par la Colombie-Britannique il y a une couple d'années. Marie, vous me parliez de ça à un moment donné.
Oui, mais il y a la Saskatchewan qui ne change jamais d'heure, déjà.
Qui n'a jamais changé d'heure.
Exactement.
Depuis 1918,
Et il y a une heure de différence avec le Manitoba, selon que c'est l'hiver ou l'été, l'Alberta. Et là même, il y a des gens qui disaient, problème, si on ne change pas d'heure en Colombie-Britannique et qu'on présente les matchs de hockey, on les regarde à quelle heure? Et est-ce que ça va commencer trop tôt en Colombie-Britannique pour que ça soit à la bonne heure dans les plus grands marchés ailleurs?
Mais évidemment, il y a plusieurs... On a montré les images de l'image de la semaine? Oui, d'accord. Je fais juste vérifier, mais je n'étais pas attentif, parce que moi, je conduis sans regarder. Alors, est-ce que vous savez si on va garder l'heure avancée d'été? C'est comme ça qu'ils l'appellent au Canada?
Ça dépend des endroits. Je pense qu'en Colombie-Britannique voulait garder l'heure avancée.
OK.
Mais peut-être qu'ailleurs au Canada, on pourrait garder l'heure normale.
Ou l'heure reculée, comme on dit. Oui.
Je crois que l'heure diverse, l'heure normale. Enfin, c'est GMT, c'est GMT plus quelque chose.
OK. Est-ce qu'on va garder...
GMT pour Greenwich. Greenwich, c'est ça?
Mais par exemple, Toronto est en dessous de Cleveland. Ou en haut de Cleveland, pour pas... Oui, géographie, là, c'est pas mon fort. Alors, Toronto est en haut de la ville de Cleveland. Est-ce que les deux supervilles auraient la même heure? Oui.
Ah, mais c'est intéressant.
Oui.
Mais c'est comme en Espagne, le Portugal à l'heure anglaise.
Okay.
Alors que l'Espagne a l'heure française, espagnole, européenne.
Et est-ce
quand
suit
vous
les
traversez
fuseaux...
la frontière, vous changez d'heure.
Mais est-ce qu'on suit les fuseaux horaires?
Ça, à peu près, oui. Mais bon, ça reste quand même qu'ils sont très proches et on change quand même d'heure. Du coup, ça ferait pareil, je pense.
Ah ouais.
Si le Canada décide de rester, de plus changer d'heure et que les États-Unis continuent à le faire, à peine on traverserait la frontière, on changerait d'heure.
Eh bien, moi, je...
Je ne sais pas comment on pourrait gérer ça. Je pense qu'il faudrait que les pays s'accordent... pour le faire.
Il y a évidemment un problème. Le pire problème, c'est les gens à la NASA qui suivent les opérations des robots sur Mars. Parce que c'est 23 heures sur Mars, une journée. Alors, à chaque jour de travail, ils doivent venir une heure plus tard travailler. Au bout de 23 jours, ils sont rendus à 24 heures de différence. Alors, citez-moi pas, là, les chiffres sont approximatifs. C'est peut-être 23 heures.
Il y aurait toute l'histoire de l'année bissextile, où là, on a une journée de moins.
Oui. Alors, ils veulent changer ça aussi?
Ben non, mais il faudrait changer l'heure. Alors, ça pourrait causer toutes sortes de problèmes.
Du coup, on est en débat, mais il n'y a personne qui... Est-ce qu'il y a eu des propositions concrètes qui fonctionneraient?
Je ne crois pas encore.
Je pense qu'il va y avoir une conversation entre les premiers ministres des provinces. C'est ce que la Colombie-Britannique veut faire, parce que c'est elle qui est la plus avancée. Elle a fait un sondage, un référendum auprès des citoyens, puis les gens disent « c'est fini, on veut arrêter de changer d'heure, parce qu'il n'y a pas de raison économique maintenant. »
Mais le problème en Colombie-Britannique avec l'heure avancée, c'est que le soleil se lèverait beaucoup plus tard le matin. Ce qui veut dire que les gens ne seraient pas encore tout à fait réveillés, peut-être, lorsqu'ils arrivent au travail, parce qu'ils seraient souvent en situation de noirceur. Alors, c'est un pensée-y bien.
Ouais, mais... Ça dépend, je pense, si on est matinal ou, ah, ou ben plus c'est du soir.
Mais travailler, c'est une véritable noirceur, c'est bien connu. Alors, écoutez, blague à part, il est quelle heure?
Moins 10.
Mais oui, exactement.
Moins 10, quel, midi moins 10, 11h moins 10?
Ben, midi moins 10.
Midi moins 10.
L'heure de l'Est.
Parfait.
Alors, 11h45. C'est fini. 11h50, presque.
OK. Alors, une chance qu'on n'a pas les secondes, parce que je vous dis que ça... on n'arrêterait pas de parler. Hein? Merci beaucoup. Merci, Mathieu Leiser, d'être venu cette semaine.
Merci, Stéphane.
Marie Jobin également.
Merci beaucoup.
Et on avait un quatrième micro, mais c'était pour vous faire languir. On ne l'a pas montré beaucoup à l'antenne, mais
c'était... C'est l'invité mystère.
Ouais.
L'invité mystère, c'est ça.
C'est ça. À la semaine prochaine.
Bye.